Comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs sujets qui s'entrechoquent dans mon esprit par rapport à la rentrée, parce qu'on n'a que l'embarras du choix lorsque la rentrée se présente, de proposer des sujets qui correspondent à des œuvres ou à un travail. Et cette semaine, bien sûr, j'ai beaucoup prié pour cette rentrée. Sincèrement, j'avais plein de sujets. C'est facile quand on prêche de trouver un sujet. Mais d'avoir la pensée de Dieu, je vous assure, c'est une autre affaire. Et dans ces temps de communion avec Dieu, vraiment j'ai senti qu'il fallait que nous lisions le psaume 23. Avant d'aller plus loin, bien sûr. Le psaume, entre guillemets, le plus connu, mais vous allez bien voir que ce n'est pas vrai. Il est connu intellectuellement, religieusement, traditionnellement, sentimentalement. Ce psaume est un grand psaume, car il nous montre ce qui se passe lorsqu'un chrétien a Jésus-Christ pour berger. D'ailleurs, j'ai mis comme titre à ma prédication « Si l'Éternel est mon berger ». Si l'Éternel est mon berger, psaume 23. Vous m'entendez pas? Non? Je ne sais pas assez fort? Non. Psaume 23. Lisons-le avec cœur, même si on peut le lire par cœur. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu onduiles ma tête. Et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Vous gardez le texte, s'il vous plaît, car il servira de repère. Dans le livre de la Genèse, nous voyons un homme qui s'appelle Isaac. Vous avez peut-être étudié la vie d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, et vous avez vu que c'est trois frères enseignent trois choses différentes. Isaac a vécu certaines choses, c'est celui qui a eu la vie la plus facile des trois. Dans Genèse au chapitre 26, et je voudrais que nous appliquions vraiment, car vous savez, dans mon esprit, je sais que des chrétiens ne sont pas prêts. Je sais que des chrétiennes ne sont pas intéressées, c'est pas un reproche. C'est très difficile d'exprimer certaines choses. Certains chrétiens, en vérité, ne sont pas conscients de l'importance de faire la volonté de Dieu. C'est un drame terrible, ça, dans les églises. Et nous voyons, parce qu'il y a justement, comme au verset 26, au chapitre 26, nous voyons régulièrement dans la Bible des famines. C'est Dieu qui les permet, les famines. J'enverrai la famine, on le voit si on prenait tous les textes, ça fait presque peur même. Toutes les fois où Dieu, pour arrêter quelqu'un ou arrêter son peuple, a dû provoquer une famine. Il le dit, j'enverrai la famine, j'ai envoyé la famine et vous n'êtes pas revenu à moi. Dieu essaye tout et souvent ça sert à rien parce que Dieu le sait. Dans le livre de la Genèse au chapitre 26, il y a une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimélec, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparit et dit... Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai. Car je donnerai toutes ces contrées à toi, à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Etc. Donc, verset 6, Isaac resta à Guérar, là où Dieu lui avait demandé. Regardez bien mes frères, il y a une famine. Il y a une famine. C'est une chose, la famine. Mais regardez vraiment ce qui se passe dans la vie de cet homme. Alors, verset 12. Lisez l'ensemble, ça vous permettra de faire un culte personnel, peut-être. Isaac, regardez bien le contexte. Une famine. Il obéit, comme il obéit. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça ressemble pas trop à une famine, ça. Le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portirent-ils envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Regardez bien ce qu'il fait. C'est un temps de famine. En plus, c'est aggravé par le comportement de l'ennemi qui a bouché les puits. Et je peux vous dire que spirituellement, on en est là. Regardez bien ce qu'il fait. Je répète, c'est la famine. Lui, il est béni. Qu'est-ce que fait Isaac? Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham, et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Ça, c'est bien. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée, et ils trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous !» Et il donna au puits le nom d'Ézec parce qu'il s'était disputé avec lui. Des combats, il y en a, mes frères et sœurs, quand on creuse. Les serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle, et il s'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle, et il l'appela Rehoboth, car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérerons dans le pays. Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit, lui dit, « Je suis le Dieu Abraham, ton père, ne crains pas, car je suis avec toi et je te bénirai. » Amen. J'ai à cœur aussi de vous lire notre texte dans l'évangile de Luc. Jésus commence son ministère, il prêche dans la synagogue de Nazareth, si je ne me trompe. Et lorsqu'il apporte son ministère béni, ça n'a pas plu à tout le monde parce qu'il a dû dire quelque chose. Écoutez bien mes frères et sœurs, tout était pesé, tout était conduit. Ce que nous pourrions vivre également. Regardez bien ce qui se passe. Jésus, vraiment, vraiment, est rempli du Saint-Esprit. Tout le monde est... Oui, tous les regards sont fixés sur lui, il ne fait que parler. Tout le monde est subjugué par l'onction que repose sur Jésus. Mais, regardez ce qui se passe. Verset 25. 4. Vous auriez dû entendre. Luc 4, verset 25. « Je vous le dis en vérité. » Regardez bien, mes frères et sœurs, dans un texte, dans un contexte de famine, c'est très important que vous écoutiez. Vous comprendrez comment Dieu bénit, même dans la famine. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie. Lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre, cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles. Si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta dans le pays du Liban. Verset 28. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Le Saint-Esprit est en train d'agir. Jésus est en train de leur dire, voilà, moi je bénis. Je suis venu pour bénir. J'ai ce pouvoir de bénir, de délivrer. De restaurer, d'ouvrir les yeux, de changer le deuil en allégresse, de donner un vêtement de louange à la place d'un esprit abattu. Il rappelle cette prophétie. Tout le monde est subjugué, bien sûr, et il va exprimer, bien sûr, comment Dieu bénit. Et c'est là qu'il va dire, mais vous ne vous souvenez pas du temps d'Élie? Il y avait plein de veuves, et pourtant, le Seigneur n'a béni qu'une étrangère. À 300 kilomètres de Jérusalem, au Liban, c'était d'aujourd'hui. Et ils ont été furieux, furieux. À la place d'être remplis d'admiration supplémentaire, parce que Dieu parlait, ils ont été vexés parce que le Seigneur n'avait pas béni des Juifs, il avait béni une étrangère. Si vous les étudiez la parole de Dieu, vous regarderez qu'il y a eu plusieurs famines. Dans chaque famine, il s'est passé des choses parce que nous sommes libres. Et c'est vrai que les famines ont le pouvoir de nous tester. Regardez comment Élimélec, quand il y a eu la famine à Bethléem, il est parti. Dieu ne l'a pas retenu. Il est parti. Il est parti avec sa femme, ses deux fils. Ça a duré 10 ans, cette affaire. Et pendant ce laps de temps, cet homme est mort, ainsi que ses deux fils. Et ils sont revenus à Bethléem. Dieu a changé le mal en bien, parce que les deux femmes qui sont revenues à aimer Dieu, avaient la crainte de Dieu. Dieu a changé le mal en bien. Moi, j'ai donné ce titre au livre de Ruth. Mais il n'empêche que Dieu nous respecte. Regardez comment Abraham s'est comporté pendant la famine. Abraham. Isaac, lui, a certainement tenu compte de ce qui s'était passé. Dieu lui a parlé, c'est vrai. Mais ce n'est pas parce que Dieu nous parle qu'on va obéir. Et nous devons nous poser vraiment la question. Parce que nous sommes dans des temps pénibles, nous sommes dans des temps difficiles, c'est prophétisé, donc ça doit quand même nous rassurer. Car j'aimerais quand même insister sur ce point-là. Même si ça ne fait pas partie de mon message, je pense que c'est important pour plusieurs qui piétinent avec Dieu. Vous piétinez pour certaines raisons. Il faut bien comprendre une chose. Nous ne comprenons pas tout. Même le ministre utopien s'est entendu dire par un jeune évangéliste « Comprends-tu ce que tu lis ?» Pourquoi ? Parce que ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question d'ouverture de cœur. Donc nous entendons des messages. Pour peu que nous n'ayons pas la pensée de Dieu, ça aggrave cette compréhension. Mais mes frères et sœurs, les temps sont difficiles. Et il faut absolument, absolument, c'est vital que dans la maison de Dieu et dans votre maison, il y ait la grâce de Dieu. Vous pouvez l'avoir. S'il y a bien deux endroits sur terre où nous devons être bien, c'est dans la maison du Seigneur et dans sa maison. Que la grâce et la paix vous soient données. L'ennemi est le spécialiste du rebouchage des puits, pour parler des sources qui devraient jaillir et continuellement nous rassasier, même s'il y a de la sécheresse. Chez moi, dans ma maison, j'ai deux puits, et j'étais fier de dire à mes voisins, moi j'ai de l'eau, parce qu'eux n'en avaient pas. Et j'étais fier, et c'est une grâce d'avoir de l'eau, non ? Mes frères et sœurs, nous sommes dans des temps compliqués, très compliqués, je vous assure, vous n'avez certainement pas tous les tenants et tous les aboutissants, moi non plus, le peu que nous voyons suffit à que tous nous sachions que Jésus va revenir chercher l'Église. Jésus va revenir. Beaucoup de chrétiens ne sont pas prêts parce que l'ennemi est le spécialiste, je le répète, du bouchage des puits. Et cette source vive, car Jésus parle des fleuves d'eau vive, il n'y en a pas une, des fleuves d'eau vive qui devraient jaillir de l'intérieur de notre âme parce que le Saint-Esprit est dans notre corps, ces sources se sont bouchées. Et c'est pour ça que c'est à juste titre que je nous pose la question ce matin. Oui, le psaume 23, je le connais par cœur, moi je peux vous le réciter par cœur. Mais est-ce que je le vis ? Est-ce que vraiment Jésus est mon sauveur ? Point. Avec tous les risques que ça comporte qu'il ne soit que mon sauveur. Ou est-ce que Jésus est mon berger, mon Seigneur ? Vous devriez, à la fin de ce sermon, répondre d'une façon concrète, dire « mais c'est vrai, bon, c'est moi le Seigneur de ma vie, c'est moi qui fais ce qu'il veut, c'est moi qui regarde ce qu'il veut, qui fait ce qu'il veut. » Il y a des puits, Isaac a été intelligent, Dieu lui a dit « tu restes là, à ta place. » Et vous avez vu la bénédiction ? Cette année-là, il récolta le Saint-Esprit. Juste une petite parenthèse, cette multiplication nous fait toujours penser à la croix. Parce que le grain de blé, quand il meurt, il porte du fruit. Et un grain en donne 30, et un autre 60, et un autre 100. Je sais que c'est un peu compliqué pour certains, mais il est certain que ce texte nous parle obligatoirement de la mort à soi-même. C'est sûr. Et je ne m'avance pas. Nous n'en sommes pas tous là, hélas, mais nous sommes dans la maison de Dieu ce matin, Mon devoir, c'est de vous communiquer sa pensée. Mon devoir, c'est de vous amener tous à être prêts. Quand Jésus va revenir, même si ce n'est pas le cas, en tous les cas, je me dois, moi, d'avoir ma conscience pure du sang de vous tous. C'est dans le Nouveau Testament aussi. Quelqu'un, un jour, m'a dit, mais c'est dans l'Ancien Testament. Je dis, non. C'est aussi dans le Nouveau Testament. Et je voudrais, mes frères et sœurs, que tous, nous avancions à notre rythme dans la compréhension de la volonté de Dieu, parce qu'il est dit, comprenez, s'il est dit, comprenez la volonté de Dieu, s'il est dit, discernez la volonté de Dieu, s'il est dit, enseigne-moi à faire ta volonté, ces verbes, il y en a d'autres, qui sont forts, qui indiquent un effort. Est-ce que je fais des efforts pour comprendre la volonté de Dieu? Par rapport à tout ce que je vous ai présenté dans les annonces, il y en a qui m'ont dit, mais Gérard, pourquoi tu ne prends pas la retraite et tu te calmes? Mais ce n'est pas une question de retraite, ce n'est pas une question de se calmer, c'est une question de faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Le témoignage d'Isaac est un témoignage extrêmement encourageant, qui nous prouve tout ce que la Bible dit. Et je voudrais prendre deux versets dans les psaumes pour que nous comprenions bien que si nous ne connaissons pas l'avenir, nous connaissons de l'avenir que ce que Dieu a voulu que nous connaissions. Par exemple, il y a plein de promesses, oui ou non, sur l'avenir. Il y en a des promesses? Ben, lisez l'Apocalypse et vous verrez que quand même, vous savez même la taille de la ville. Est-ce que Dieu était obligé de nous dire que la Jérusalem céleste se ferait juste, un petit minusculement, 2200 km de hauteur? Pourquoi Dieu a pris le temps de nous dire que la Jérusalem céleste ferait 2200 km carrés de côté? Bon, ça nous montre quand même que Dieu est un peu grand. Pourquoi je vous dis ces choses? Nous ne connaissons pas l'avenir. Et faites attention aux prophètes de malheur qui prophétisent des choses qui ne sont pas bibliques. Nous ne connaissons pas l'avenir, c'est vrai. Parce que Dieu n'a pas voulu qu'on le sache, à part certaines personnes qui reçoivent des prophéties qui les indiquent et les aident à avancer. Ça, c'est vrai. Mais, si nous ne connaissons pas l'avenir, nous avons toutes les promesses de Dieu pour ne pas avoir peur de l'avenir. Alléluia. Vous le croyez, ça? Dieu ne vous dit pas ceci ou cela, mais il vous dit, par exemple, c'est clair, n'ayez pas peur du lendemain. Est-ce que ce n'est pas bien? Est-ce que vous avez peur de demain? Est-ce que vous avez peur du lendemain? Tiens, mais qu'est-ce qui va nous tomber dessus? Qu'est-ce qui va nous arriver? Vous ne croyez pas que Dieu règne au siècle des siècles? Dans les siècles de famine, dans les siècles d'abondance, Jésus a toujours régné. C'est comme ça. Et il nous a donné, par exemple, deux promesses, on va les lire, je crois qu'il y en a une, c'est dans le psaume 37. C'est important, mes frères et sœurs, que vous ne vous affligiez pas pour l'avenir, mais que nous nous concentrions sur les promesses pour que notre avenir soit plein d'espérance. Et mes frères et sœurs, nous qui avons des enfants à la maison, des petits-enfants à la maison, n'oublions pas qu'ils sont beaucoup plus influencés par notre comportement à la maison. Et si nous avons tout le temps peur du lendemain, laissez-moi vous dire que le témoignage leur transmettra la peur. Et si vous êtes dans la paix, ben vous leur procurerez la paix. Fait ça, la palisse l'aurait pu le prêcher. Dans le psaume 37, Dieu parle de certaines choses qui se passent pendant les temps de famine. C'est important quand on lit les psaumes. Les gens aiment les psaumes, mais souvent ils ne réalisent pas l'enseignement qu'ils contiennent. Dans le psaume 37, par exemple, versets 18 et versets 19, c'est très très important, frères et sœurs. Parce que je le répète, vous ne connaîtrez pas l'avenir, ce n'est pas vrai. Mais vous avez toutes les promesses, alléluia, pour l'avenir. Psaume 37, versets 18 et 19. 37. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage durera jamais. Regardez bien. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur. Et ils sont rassasiés au jour de la famine. Vous pouvez dire amen. Parce que dans les temps difficiles que vous vivez, que nous vivons, et que nous vivrons en crescendo de plus en plus, c'est prophétisé. Vous n'avez pas à avoir peur si vous êtes droit, si Jésus est votre berger. On pourrait lire, je crois, le 33-19. Il y a un autre. Il y en a plusieurs, j'ai pensé à ces deux, mais il y en a d'autres. Merci Seigneur. Psaume 33, versets 18 et 19. C'est très important, c'est ce que Isaac a vécu, c'est ce que la veuve de Sarepta a vécu. Cette étrangère qui n'avait rien, elle avait la crainte de Dieu. Vous pourrez le vérifier dans le livre des rois. Ça serait intéressant de le faire si on a le temps. Psaume 33, versets 18 et 19. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Ça ne m'étonne pas que Dieu ait envoyé Élie vers cette veuve. Sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Alléluia. Mes frères et sœurs, oui, je devrais, si nous étions prêts, nous amener dans la compréhension des œuvres que Dieu a préparées à l'avance. Et cette semaine, bien sûr, comme tout pasteur qui se respecte, je me suis tenu devant Dieu. Et j'ai bien sûr cette aptitude, c'est clair, à enseigner sur les œuvres préparées à l'avance. Mais dans un moment vraiment d'intercession et de prière, j'ai compris qu'il fallait anticiper les œuvres par une préparation spirituelle. Et nous voyons que ces temps difficiles ne doivent pas nous effrayer. Ce n'est pas parce qu'il est dit difficile qu'il est dit impossible. Oui, nous sommes dans des temps difficiles. Mais si l'Éternel est notre berger, nous ne manquerons de rien. Et Dieu tient à ce que nous le sachions. Nous avons besoin d'assurance. C'est écrit, n'abandonnez pas votre assurance. Ayez de l'espérance. Vous avez vu, on le voit, c'est dit plus différemment. Mais on voit que Dieu tient à ce que nous développions certaines vertus et que le diable va essayer de détruire, car c'est sa vocation. Il passe son temps à essayer de détruire. La Bible dit que l'accusateur des frères, nuit et jour, il nous accuse. Et lui persévère. Nuit et jour. Nuit et jour, il essaie de nous détruire. Et Dieu, lui, nous rappelle que tout ce que nous avons besoin de savoir, nous le savons. D'ailleurs, il le dit dans Marc 14, je crois. Voici, je vous ai tout annoncé à l'avance. Alléluia. Tout ce qu'on a besoin de savoir est écrit dans le canon des Écritures. Des fois, on dit, Seigneur, j'aimerais que tu me révèles ceci. Oui, bon, c'est bien. Mais tout ce qu'on a besoin de savoir est dans le Saint-Livre. Toutes les promesses concernant l'avenir sont dans le Saint-Livre. Alors, nous n'allons pas avoir le temps de méditer le psaume 23 pour savoir si les 10 conséquences de ce que l'Éternel est mon berger, je les vive. Est-ce que nous avons envie de vivre cette affaire-là? Si l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Vous savez, on peut manquer. Cette semaine, j'ai lu le livre de la Genèse. Et quand Jacob a appris la mort de son fils Joseph, vous savez comment, les circonstances en plus. Il faut vraiment être tordu pour parler, pour avoir fait croire ça à son père. Moi, je me demande comment ils ont fait pour rester plus de 20 ans. Comme quoi la conscience, on peut la perdre, moi je vous le dis. Vous rendez compte? Ils ont fait croire à leur père que leur fils avait été tué par une bête sauvage. Tous. Et son père a gardé ça pendant au moins 22 ans, puisque au moins 22 ans. Et quand il apprend la mort de son fils, ce qui est une épreuve terrible, il a refusé la consolation. Il a refusé la consolation. Alors qui sommes-nous pour juger quelqu'un qui est en braque? Franchement, Rachel a refusé la consolation. Et si c'est écrit, c'est pas pour que dire, ah bon, comment ça se fait qu'un homme comme ça ait refusé la consolation quand même. Mes frères et sœurs, vous savez, c'est un peu plus compliqué que ça, les épreuves. Mais nous aussi, nous pouvons refuser de déboucher les puits. La consolation, est-ce que c'est important la consolation? Est-ce qu'on a besoin de consolation? Vous avez vu le nom que le Seigneur Jésus donne au Saint-Esprit? Je vous enverrai, il aurait pu trouver un autre nom, franchement, je vous donnerai un autre consolateur. Le seul nom que Jésus donne au Saint-Esprit dans ce cadre-là, c'est le consolateur. Pourquoi ? Mais parce qu'on a toujours besoin de consolation. On a besoin d'être consolés, de se consoler les uns les autres. N'ayez pas honte de dire « consolez-moi ». Est-ce qu'on a la liberté, justement, la communion fraternelle et, par exemple, moi, c'est vrai que pour les repas d'église, je n'étais pas le plus porté sur ça, mais je me rends compte combien c'est important que nous partagions. Quand on partage certaines choses sur nos enfants, tiens, je vais discuter avec Marilyn ou avec Madame Régnier ou avec Manuel, là, on va parler de nos enfants, de nos petits-enfants. Eh bien, on va prier pour Romain, pour Morgane. La communion fraternelle, c'est pas du pipeau. La communion fraternelle, c'est important. Et vous savez, si nous avons eu à cœur de commencer l'année scolaire par cette semaine de jeûne et prière, je sais très bien que peut-être tous ne pourront pas le faire, que certains, c'est difficile. Mais chez nous, est-ce que ça ne vaudrait pas la peine que, même si nous ne pouvons pas venir, tiens, je sais que mes frères, ils sont à l'église en train de prier, eh bien, je vais prier, moi aussi. Il y a des puits qui sont bouchés. Isaac aurait pu dire, attends, mais tu te rends compte tout le travail qu'il y a? On va partir de là, c'est trop compliqué. Il y a trop d'ennemis. Non, Dieu t'a dit, tu restes là. Il est resté là. Alléluia. Et cette année-là, c'est écrit, il récolta le centuple. Il aurait récolté le double. Moi, je trouve que c'est déjà bien. Il récolte le centuple. Vous savez, quand je préparais cette prédication, il y avait ce verset qui est venu sur mon cœur ce matin, c'était de très bonne heure. Quand il est dit, mais croyez-vous que l'Écriture parle en vain ? Dieu, au contraire, chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. Et nous devrions nous caler là-dessus et dire, mais Seigneur, tu as mis ton esprit dans mon corps est le temple du Saint-Esprit, je devrais quand même faire un peu attention à ce que j'introduis dans mon corps par les yeux et par la bouche et par les oreilles. Est-ce qu'il y a un puits qu'il me faut déboucher dans les jours qui viennent? Je crois que le Seigneur, il nous aidera. Seigneur, qu'est-ce que j'ai perdu? Tiens, éclaire-moi, Seigneur. Est-ce que des fois, on se rend toujours compte de ce que l'on perd? Est-ce qu'on peut perdre la paix? Est-ce que déjà, vous avez perdu la paix? Moi, je l'ai perdu plusieurs fois. Vous savez, un conflit avec un frère, pif, paf, c'est vite. Combien de temps il faut pour perdre la paix? Combien de temps il faut? Ça va. C'est le genre de truc, c'est assez vite. Et nous pouvons nous habituer, et nous n'avons pas à nous juger. Nous devons nous aider. Mais nous pouvons perdre la joie. Moi, je me souviens, je vous l'ai déjà dit, la fois où j'étais dans mon bureau, où j'avais lu « Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. » Et j'ai dit au Seigneur, écoute, tu vois, même là, je ne peux pas. J'avais honte. Vous servez Dieu, vous êtes pasteur. Et vous lisez la Bible. Et imaginez-vous, si Dieu m'avait... ce soir-là, poussé à prêcher sur ce verset, et que moi, j'étais pas en état de le prêcher. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Moi, j'ai dit, tu parles. Je ne peux même pas. Et j'ai demandé à Dieu qu'il redonne la joie du salut. Parce que les conflits avaient fait que ça avait dégénéré sur ma communion avec Dieu. Et j'en avais perdu la joie. Alors que Dieu donne sa joie, une joie parfaite. Pas une exubérance mondaine, une joie intérieure de lui appartenir. Y a-t-il des puits que je dois déboucher, Seigneur? Il aurait pu dire, écoute, moi j'ai récolté le centuple, bon, mais écoute, les autres. Quand on travaille à cela, je pense que Isaac devait aussi penser aux autres. Parce que quand on débouche un puits, ou quand on veut porter du fruit, un pommier, il ne donne pas des pommes pour lui. Il donne des pommes pour rafraîchir les autres. Oui ou non? Un arbre, ce n'est pas pour lui qui fait des fruits. C'est pour les autres. Est-ce que ma vie rafraîchit les autres? Ou est-ce que ma vie dessèche les autres? Alors il y a des puits, vous avez vu les deux premiers puits, ça a été l'objet de combats, parce qu'il y a des combats. Nous devons accepter l'idée de souffrir. Il est dit armez-vous de la pensée de souffrir. Nous, on est dans un monde où on essaie de vous faire croire que justement l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça ne veut pas dire que nous n'aurons pas d'épreuves. Ça veut dire que dans les épreuves, nous ne manquerons de rien. Joseph a été vendu par ses frères comme un esclave, tel un esclave. Et qu'est-ce qu'il est dit? Que dans la prison, c'est bizarre, l'Éternel était avec Joseph. Alléluia. Le problème, ce n'est pas d'être dans une épreuve ou dans l'abondance. Le problème, c'est que Dieu soit avec nous. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir justement comment telle personne s'est comportée. Je vous parlais de la veuve de Sarepta, c'est dans 1 Roi au chapitre 17. Comment ça se fait? Vous rendez compte, Dieu parcourt, ses yeux parcourent la terre entière. Ça vous rassure que Dieu est capable de voir ce qui se passe dans le cœur de 7 milliards 500 millions d'habitants? Est-ce que ça vous rassure?
Ben oui, un peu, moi je trouve que c'est bien.
1 Roi 17, Dieu envoie cet homme vers une veuve, vers une étrangère, en pleine famine, c'est une grande famine, puisque Jésus a dit que c'était une grande famine, donc c'était compliqué. Et regardez cette femme, dans quel état d'esprit elle est. Et ça doit nous amener, cette femme, elle avait accepté Dieu, elle n'avait pas la Bible, elle n'avait pas l'Ancien Testament, elle n'avait rien cette femme. Elle avait la crainte de Dieu, parce que la crainte de Dieu, vous pouvez le calculer comme vous voudrez, la crainte de Dieu, c'est un choix. Il n'y a pas des gens qui naissent avec la crainte de Dieu et d'autres qui naissent avec un je m'en foutisme pas possible. Ce n'est pas vrai. C'est un choix, la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu protège les hommes. Justement, Abimelech, quand il a failli coucher avec Sarah, vous rappelez? Dieu lui a dit, c'est pour ça que je t'ai empêché de coucher avec elle. Parce que je savais que tu avais la crainte de Dieu. Alléluia. 1 Roi 17, regardez cette femme. Alors, verset 10, « Il se leva, il alla à Sarepta, comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Imaginez, regardez, avec la suite, vous allez comprendre qu'elle aurait pu agir différemment. Elle alla en chercher, il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie un morceau de pain dans ta main. » Regardez bien sa réponse. Vous savez, nos réponses, elles sont révélatrices, nos réponses. Elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, comment il est? Il est vivant. C'était une famine. Mais elle, une des seules choses qu'elle va dire sur Dieu, c'est qu'il est vivant. Je ne sais pas si vous croyez qu'il est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi, pour mon fils, nous mangerons, après quoi? Nous mourrons. Qu'est-ce qu'Élie lui dit? Regardez bien, mes frères et sœurs, c'est important la parole de Dieu. À un moment donné, une promesse, un commandement, une exhortation, une recommandation. Élie lui dit, ne crains point. Rentre, ça aussi, si on comprenait. Fais comme tu as dit seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. Elle aurait pu dire, non mais tu te moques. Qu'auriez-vous répondu? Vous n'avez plus un rond. Vous n'avez plus d'argent. Vous savez que ce qui vous reste vous permettra juste de préparer un tout petit repas pour vous et pour vos deux fils. Et vous avez un pasteur qui s'amène et qui vous dit, écoute-moi, tu me fais d'abord un gâteau à moi. Alors je ne sais pas comment le Seigneur nous éprouve. Il nous éprouve physiquement, psychologiquement, intellectuellement, dans notre intimité, dans tous les domaines. Vous le savez. Mais comment nous nous comportons? Vous vous rendez compte de Jésus, son premier sermon, c'est son premier sermon en vérité. Il parle de cette femme qui, dans une grande famine, a vu la réalisation du psaume 33 et du psaume 37 qu'on a lu tout à l'heure, que les gens qui craignent Dieu, ils ne manqueront de rien. Et si cela, franchement mes frères et sœurs, je vous le dis avec beaucoup de respect, si cela, le peu que je viens de vous dire, ne nous encourage pas, à nous les chrétiens, si vous n'êtes pas convertis, c'est autre chose, mais à vous les chrétiens, si cela ne nous encourage pas à le servir avec joie, avec assurance, avec espérance, avec élargissement de cœur. Je prends ça parce que le troisième puits s'appelait Rehoboth, ça veut dire élargissement, épanouissement. Si nous ne sommes pas encouragés au travers d'une exhortation comme celle-ci, qui nous rappelle que Dieu règne au siècle des siècles dans tous les pays, et que quelqu'un qui développe la crainte de Dieu, le respect de Dieu, pourra dire, si l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous le croyez ça ou c'est de la philosophie? Si l'Éternel est mon berger, il me dirigera près des eaux paisibles. Seigneur, j'ai perdu la joie, je la cherche dans le monde. Il y a des chrétiens. Il y avait un don ce matin qui en parlait. Combien de chrétiens ont besoin de... Parce qu'on a besoin de joie en plus. Cherchent la joie dans le monde. On devrait quand même dire, attends, mais c'est la famine. Le puits est bouché. Est-ce que vous croyez que Dieu peut nous aider à déboucher des puits? Est-ce que le Seigneur peut nous aider à retrouver cette paix? Parce que je suis chrétien et parce que je veux que mes enfants aient la, voient ma paix. Jésus le dit, heureux, je l'ai dit tout à l'heure, heureux ceux qui procurent la paix. Seigneur, j'ai perdu la paix. Je m'excuse auprès des gens, oui, je dis c'est à cause du boulot, c'est à cause du patron, c'est à cause de mes enfants, ils sont pénibles, c'est toujours à cause des autres, le chat qui est parti. Mes frères et sœurs, Dieu donne la paix. Alléluia. Dieu donne la joie. Les fleuves d'eau vive, ils ne dépendent pas des circonstances. Et vraiment, nous devrions, cette semaine de jeûne et prière, franchement, ça serait peut-être bien de chercher Dieu. Pas de chercher la bénédiction. La bénédiction, elle suivra, c'est incontournable. Le problème, il est là, c'est qu'il y a plein de gens qui cherchent la bénédiction. Alors que nous devrions peut-être chercher cette miséricorde et cette grâce avant de chercher la bénédiction. Des millions de gens ont été bénis matériellement et n'ont jamais accepté la miséricorde de Dieu pour le pardon de leurs péchés. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et j'aimerais vraiment que tous, afin d'entrer dans les œuvres, car Michael l'a bien dit tout à l'heure, c'est vrai que j'aurais pu vous faire une bonne exhortation sur les œuvres préparées à l'avance, et je pense qu'à moi, ça m'aurait fait du bien d'encourager les chrétiens à entrer dans les œuvres que Dieu a préparées. Mais comment y entrerons-nous si l'Éternel n'est pas notre berger? Comment y entrerons-nous si nous sommes juste des religieux du dimanche? Mes frères et sœurs, quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Tu dresses une table en face de mes adversaires. Je ne sais pas si vous réalisez la portée de cette promesse. Tu dresses une table en face de mes adversaires. Vous savez ce que ça veut dire? On n'a pas le temps de le voir. Il restaure mon âme. Il y a déjà, le psaume 23, si vous lisez, il restaure mon âme. Si Jésus n'est pas votre berger, c'est du vent. Si nous voulons que Jésus restaure notre âme, il faut absolument qu'il soit notre berger. Quelqu'un qui n'a pas son âme restaurée, comme ça devrait être le cas à la fin de cette exhortation, où le Seigneur peut avoir restauré. Vous savez, vous aimez les restaurants. Et nous aimons restaurer notre corps. Cette semaine, ça va être un peu plus compliqué. Mais nous aimons nous occuper de notre corps. Est-ce que nous n'aurions pas intérêt à nous occuper de notre âme? Vraiment. Il nous aidera. S'il te dit ce matin, ne pars pas. Il y a des millions de chrétiens qui ont rétrogradé. Ils sont partis. Nous sommes une famille. Nous sommes une église. Nous sommes des frères et des sœurs. Nous devons rester ensemble. Nous unir, travailler. Que l'Éternel soit le berger de tous les chrétiens de l'église. Tu oins d'huile ma tête. Vous n'avez pas envie de cette fraîcheur? Que ça déborde sur les autres. Est-ce que vous seriez d'accord qu'on invoque la grâce de Dieu? Vraiment, pas pour terminer le culte, parce que c'est la prière de conclusion. Non, de faire vraiment une prière. Tout à l'heure, on priera pour ces puits. Au jeûne et prière, on priera pour que Dieu fasse en sorte que tous les puits soient débouchés. Mes frères et sœurs, c'est sérieux cette affaire. C'est sérieux. Demandez, vous recevrez. Il l'a dit, le Seigneur. Seigneur, notre Père, si tu as daigné bon de faire en sorte que nous ne connaissions pas l'avenir, tu as dans ta bonté fait de sorte que nous ayons toutes tes promesses pour rendre certain l'avenir. Merci Seigneur. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous nous sommes inquiétés de l'avenir, alors que tout est dans ta main. Que même pas un moineau ne tombe sans que tu ne l'aies voulu. Seigneur, nous te demandons dans cette semaine de jeûne et de prière de nous aider à faire en sorte que tous les puits soient débouchés, que tous les chrétiens soient au bénéfice dans ces temps difficiles de ce rafraîchissement parce que tes ruisseaux sont remplis. Seigneur, aide-nous pendant cette semaine à nous organiser par rapport au temps, par rapport au travail, par rapport au trajet. Vraiment, Seigneur, nous demandons ton aide, afin que, oui, tous, toute l'Église, puissions entrer dans les œuvres que tu as préparées à l'avance. Merci, Seigneur, pour ta délicatesse de nous avoir enseigné cela. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.